Vous écoutez On lit pour vous.
Que se passe-t-il dans votre cœur quand vous pleurez? Pourquoi les larmes soulagent vraiment? Un texte de la rédaction paru le 20 juillet 2026 dans Futura Science. Pleurer, un aveu de faiblesse? La science dit tout le contraire. Loin d'être un simple débordement, les larmes apaisent la douleur, régulent nos émotions et activent un mécanisme naturel d'apaisement. Petit tour d'horizon des bienfaits insoupçonnés d'un geste aussi humain que réparateur. Pleurer est une action universelle, déclenchée par une multitude d'émotions. Les chercheurs ont constaté que les larmes peuvent bénéficier au corps comme à l'esprit, et ce, dès la naissance, avec le premier cri du nourrisson. Loin d'être un signe de faiblesse à réprimer, pleurer remplit plusieurs fonctions bien réelles. Tour d'horizon. Détoxifier le corps et s'apaiser. Il existe trois types de larmes. Les larmes réflexes évacuent les impuretés comme la fumée ou la poussière. Les larmes basales lubrifient l'œil et le protègent des infections. Les larmes émotionnelles, enfin, répondent à un sentiment, tristesse ou joie. Les chercheurs supposent que pleurer permettrait d'évacuer hormones de stress et toxines, même si ce point demande encore à être confirmé. Les larmes seraient aussi l'un de nos meilleurs mécanismes d'auto-apaisement. Pleurer active le système nerveux parasympathique qui aide le corps à se reposer et à récupérer. L'effet n'est toutefois pas immédiat. Il faut parfois plusieurs minutes de larmes avant d'en ressentir les bienfaits apaisants. Atténuer la douleur et améliorer l'humeur. Pleurer longuement libère de l'ocytocine et des endorphines, ces substances du bien-être qui peuvent soulager la douleur, physique comme émotionnelle. Une fois les endorphines libérées, le corps peut entrer dans une forme d'engourdissement, tandis que l'ocytocine procure un sentiment de calme. Au-delà de la douleur, sangloter peut même remonter le moral. En réduisant le stress et en libérant des endorphines, les larmes contribuent à améliorer l'humeur générale. Susciter le soutien et traverser le deuil. Pleurer, c'est aussi signaler à son entourage que l'on a besoin d'aide. Depuis la petite enfance, les larmes sont un comportement d'attachement dont la fonction est en grande partie d'obtenir réconfort et soins des autres. Elles aident ainsi à renforcer son réseau de soutien dans les moments difficiles. Le deuil est justement un processus où les larmes tiennent une place particulière. Fait de tristesse, d'engourdissement, de culpabilité et de colère, il se traverse différemment selon chacun. Pleurer peut aider à cheminer et à accepter la perte d'un être cher. Si les larmes commencent toutefois à empiéter sur la vie quotidienne, il peut être utile d'en parler à un professionnel de santé. Rétablir l'équilibre émotionnel. Les larmes ne surgissent pas seulement face à la tristesse. Il arrive de pleurer de bonheur, de peur ou de stress intense. Selon la recherche, pleurer dans ces situations aiderait à rétablir l'équilibre émotionnel. Face à une émotion très forte, ce serait la manière du corps de retrouver son point de stabilité. Quand faut-il consulter? Pleurer en réaction à ce qui nous rend heureux ou triste est courant et sain. Il ne faut pas retenir ses larmes, si l'on ressent le besoin de les laisser couler. Des pleurs excessifs, en revanche, méritent d'être évoqués avec un médecin. S'ils se mettent à perturber les activités du quotidien, ils peuvent être le signe d'une dépression. D'autres symptômes peuvent accompagner une dépression, parmi lesquels un sentiment de tristesse ou de désespoir, de l'irritabilité, des changements d'appétit ou de poids, un manque d'énergie, des troubles du sommeil ou encore des douleurs inexpliquées. Pleurer est une façon normale et saine d'exprimer ses émotions et il n'y a aucun mal à le faire. Mais si vos larmes commencent à interférer avec votre vie de tous les jours, en parler à un professionnel de santé peut être une bonne idée. Ce sujet touche à la santé émotionnelle. Si vous traversez une période difficile, sachez qu'un médecin ou un professionnel de santé mentale peut vous accompagner pour trouver des ressources de soutien. C'était « Que se passe-t-il dans votre corps quand vous pleurez? Pourquoi les larmes soulagent vraiment? » Un texte de la rédaction paru le 20 juillet 2026 dans Futura Science.
La plus récente éclosion de rougeole au Québec est terminée. Un texte de Johanna Sabi, paru le 3 août 2026 dans Info Bref. 28 cas de rougeole ont été déclarés au Québec depuis le début de l'été. Le dernier cas a été signalé le 1er juillet. Or, le ministère de la Santé considère qu'une éclosion est terminée lorsque 32 jours se sont écoulés depuis le dernier cas. Dans l'ensemble du Canada, plus de 1100 cas ont été déclarés depuis janvier. Marie-Pierre Burel, porte-parole de l'Agence de la santé publique du Canada, a indiqué à InfoBref que le pays avait récemment connu sa plus importante éclosion de rougeole depuis plusieurs décennies, mais que seule une transmission limitée persiste désormais. Fin 2024, le Canada a vu une importante recrudescence de la rougeole à la suite de l'importation du virus au pays. L'éclosion qui s'est alors déclenchée a été la plus importante au pays depuis plusieurs décennies. La transmission a atteint un sommet au printemps 2025, raconte Marie-Pierre Burel. Elle a touché principalement des personnes non vaccinées ou insuffisamment vaccinées. Le Canada a perdu, en novembre 2025, son statut de pays ayant éliminé la rougeole, statut qu'il détenait depuis presque 30 ans. Les efforts soutenus de santé publique, des provinces, du fédéral et des municipalités ont depuis permis de réduire considérablement le nombre de cas. Parmi les moyens déployés, Marie-Pierre Burel cite la sensibilisation aux maladies évitables par la vaccination, la lutte contre la désinformation en matière de santé. Alors que le nombre de cas de rougeole atteint un sommet aux États-Unis, Marie-Pierre Burel reconnaît que le risque d'importation de cas au Canada par l'entremise des voyages internationaux demeure, particulièrement pendant les périodes de déplacement accrues, comme la saison estivale. Les voyageurs non vaccinés contre la rougeole risquent de la contracter à l'étranger, explique-t-elle, et ils peuvent introduire la maladie au Canada. C'était La plus récente éclosion de rougeole au Québec est terminée, un texte de Johanna Sabi, paru le 3 août 2026 dans Info Bref.
Éphéméride, un regard sur l'histoire. C'est arrivé un 26 août. En 1429, Jeanne d'Arc atteint les abords de Paris. Dans le cadre de la campagne visant à chasser les Anglais du territoire français, Jeanne d'Arc et ses troupes parviennent aux portes de Paris, alors tenues par les forces anglo-bourguignonnes. L'assaut lancé contre la ville échoue et Jeanne elle-même est blessée au cours des combats. Malgré cet échec, l'épisode renforce sa légende et sa détermination aux yeux du roi Charles VII. elle sera capturée quelques mois plus tard près de Compiègne. C'était Éphéméride, un regard sur l'histoire. C'est arrivé un 26 août.
Les versements au titre de l'allocation canadienne pour enfants augmentent en 2026-2027. Un communiqué de presse d'Emploi et Développement social Canada paru le 20 juillet 2026 sur le site du gouvernement du Canada. Le gouvernement du Canada allège la charge financière des familles en augmentant l'allocation canadienne pour enfants, ACE. L'ACE est un paiement mensuel non imposable visant à les aider à subvenir aux besoins de leurs enfants. Aujourd'hui à Montréal, au nom de la secrétaire d'État Enfance et Jeunesse, l'honorable Anna Guény, Annie Koutrakis, secrétaire parlementaire de la ministre de l'Emploi et des Familles, a le plaisir de souligner l'augmentation de l'aide financière non imposable que les familles reçoivent en 2026-2027 grâce à ce programme. À compter de ce mois-ci, grâce à l'allocation, une famille pourra recevoir jusqu'à 8 157 $ pour chaque enfant âgé de moins de 6 ans et jusqu'à 6 883 $ pour chaque enfant âgé de 6 à 17 ans. Il s'agit d'une augmentation allant jusqu'à 160 $ par enfant de moins de 6 ans et allant jusqu'à 135 $ par enfant de 6 à 17 ans comparativement à l'année précédente, ce qui permet d'aider les familles à gérer les dépenses quotidiennes comme l'épicerie, l'habillement et les services de garde d'enfants. Rien qu'au Québec, les montants versés au titre de l'allocation s'élèvent à un total dépassant les 6,2 milliards de dollars au profit d'environ 892 000 familles chaque année. Cela vient réduire les pressions financières qui s'exercent sur elles et contribue à la stabilité financière des ménages de partout dans la province. Aujourd'hui, à l'échelle nationale, l'allocation vient en aide à environ 3,6 millions de familles s'occupant de 6 millions d'enfants. Elle permet de verser chaque année environ 30 milliards de dollars non imposables aux familles canadiennes. L'allocation a contribué à sortir des centaines de milliers d'enfants de la pauvreté et a remis davantage d'argent directement dans les poches des parents qui en avaient le plus besoin. Citation. À partir de lundi, l'allocation canadienne pour enfants augmentera pour 3,6 millions de familles canadiennes. Cette augmentation du montant mensuel permettra de couvrir des dépenses quotidiennes comme les fournitures scolaires, les vêtements et l'épicerie. En investissant dans les enfants, nous investissons dans notre avenir et continuons à bâtir un Canada fort. La secrétaire d'État Enfance et Jeunesse, l'honorable Anna Guény. L'allocation canadienne pour enfants contribue d'offrir aux familles la stabilité dont elles ont besoin pour s'épanouir. En ajustant les versements afin qu'ils évoluent au rythme du coût de la vie, nous veillons à ce que les parents disposent de plus d'argent pour subvenir à leurs besoins essentiels comme l'épicerie, les vêtements et les services de garde d'enfants, ce qui contribue à rendre les ménages plus forts et plus résilients partout au pays. La secrétaire parlementaire de la ministre de l'Emploi et des Familles, Annie Koutrakis. Faits en bref. L'allocation canadienne pour enfants est un versement mensuel non imposable fondé sur le revenu de l'année précédente. Elle offre de l'aide aux familles à revenus faibles ou moyens ayant des enfants afin de les aider à assumer les dépenses associées à l'éducation des enfants. Au Québec, près de 1,4 million d'enfants bénéficient de l'allocation car elle améliore la sécurité financière au sein de leur foyer et permet à leurs parents d'investir dans l'avenir de leurs enfants. Le montant reçu au titre de l'allocation dépend de plusieurs facteurs clés, notamment le nombre d'enfants et leur âge, ainsi que le revenu familial net. rajusté de l'année précédente. Par exemple, une famille avec un enfant de 5 ans et un autre de 9 ans dont le revenu net familial ajusté est de 65 000 $ recevra environ 11 430 $ en 2026-2027. Cela représente près de 400 $ de plus que ce qu'elle aurait reçu en 2025-2026. L'allocation est conçue pour être ajustable en fonction du coût de la vie. Elle est indexée à l'inflation depuis 2018, ce qui garantit aux familles qu'elles pourront compter sur un soutien prévisible qui ira en augmentant. L'indexation annuelle prend effet le 1er juillet de manière à coïncider avec le début de l'année du programme pour ce qui est des paiements, c'est-à-dire du 1er juillet au 30 juin de chaque année. De nombreuses études et rapports de recherche ont révélé les retombées suivantes associées à l'allocation. Elle a aidé les mères monoparentales à faible revenu à joindre les deux bouts. 85% des répondantes ont indiqué qu'elles connaîtraient beaucoup de difficultés sans l'allocation. Elle a aidé les familles à faible revenu à consacrer plus d'argent aux nécessités, en anglais seulement, comme la nourriture, le logement et les vêtements pour les enfants. Elle a réduit le taux d'insécurité alimentaire grave, en anglais seulement, d'un tiers chez les familles à faible revenu. C'était les versements au titre de l'allocation canadienne pour enfants augmentent en 2026-2027. Un communiqué de presse d'Emploi et Développement social Canada paru le 20 juillet 2026 pour le site du gouvernement du Canada.
Qu'est-ce que la régression chez l'enfant et comment aider votre bambin? Un texte de la rédaction paru sur le site de l'UNICEF. Une experte en psychologie nous explique que, si les régressions peuvent être frustrantes, elles sont généralement de courte durée. Votre enfant a fait un formidable bond en avant, par exemple, il est enfin propre. Avant de faire un pas en arrière, il refuse d'aller aux toilettes. Sachez qu'il n'est pas le seul et que beaucoup de parents vivent la même chose. La régression est un phénomène courant chez les enfants, en particulier chez les tout-petits. Nous avons demandé à Nancy Close, titulaire d'un doctorat, maîtresse de conférences au Child Study Center de l'École de médecine de Yale et directrice adjointe du programme d'éducation de la petite enfance de Yale, quelles étaient les causes des régressions et comment aider nos enfants à traverser ces périodes? Qu'est-ce qu'une régression? Quelles en sont les causes? J'aime associer la régression à l'idée de progression, explique Nancy Close. La plupart des enfants ont très envie d'avancer dans leur développement. Progression. Les enfants sont naturellement dotés d'une énergie qui les pousse à explorer, à manipuler et à maîtriser leur environnement. Toutefois, l'enthousiasme suscité par les nouvelles acquisitions s'accompagne de stress. Ainsi, un enfant qui apprend à marcher est peut-être ravi de cette nouvelle compétence, mais parallèlement, il se rend compte que ses parents sont désormais plus éloignés ou qu'il pourrait tomber. Lorsque l'enfant rencontre ces écueils, cela peut s'avérer très impressionnant et entraîner une sorte de régression, explique la spécialiste. À quoi ressemble un comportement régressif? C'est variable, mais généralement, l'enfant adopte le comportement d'un plus jeune ou réclame plus d'attention. On peut observer davantage de crises de colère, des difficultés pour dormir ou manger, ou le retour d'une immaturité dans la manière de s'exprimer. Lorsqu'un enfant a acquis certaines compétences, par exemple, s'habiller seul, il se peut qu'elles disparaissent. Du jour au lendemain, votre enfant est incapable de faire ce qu'il savait faire avant. Explique Nancy Close. À quel âge les régressions se produisent-elles?
On observe généralement les comportements régressifs chez les tout-petits et les enfants de maternelle, mais ils peuvent survenir à tout âge, y compris chez des nourrissons et des enfants plus grands. Chez un nourrisson, les régressions ne sont pas toujours aussi visibles. Ainsi, un bébé sera un peu plus accaparant, réclamera davantage à manger, se plaindra ou pleurera plus souvent que d'habitude. La régression est-elle un phénomène fréquent? Rassurez-vous, la régression est un phénomène courant. Les parents doivent d'ailleurs s'attendre à y être confrontés et elle est très utile au développement. Considérez-la comme un moyen pour votre enfant de se préparer à assumer davantage de responsabilités. Je constate que certains enfants régressent juste avant ou juste après avoir réalisé un important progrès, ajoute Nancy Close. Je crois que les raisons et les logiques des régressions varient d'un enfant à l'autre. En général, les parents finissent par apprendre qu'après un progrès, leur enfant a besoin de revenir un peu en arrière. Les régressions sont également très fréquentes lorsque les enfants doivent s'adapter à de nouvelles situations, par exemple, quand la fratrie s'agrandit ou quand ils entrent à l'école maternelle. Comment les parents peuvent-ils accompagner leur enfant lors d'une régression? Rassurez votre enfant. Dites-lui qu'il est en sécurité et soutenu. Essayez de lui montrer que vous avez remarqué le comportement régressif sans susciter de honte. Nancy Close suggère d'essayer les phrases suivantes. Tu es en train d'apprendre à faire beaucoup de choses de grand ou de grande. C'est très difficile. J'ai l'impression que parfois tu penses avoir besoin de mon aide. Le jeu peut également s'avérer utile pour explorer les émotions difficiles. Les jeux d'imagination et les jeux symboliques constituent des outils utilisés par les enfants pour développer le langage et pour élaborer leurs pensées et leurs conceptions du monde. Sur le plan social et émotionnel, le jeu leur permet d'exprimer certaines choses auxquelles ils sont confrontés et qu'ils ne peuvent pas toujours décrire par des mots. Poursuit Nancy Close. En observant votre enfant en train de jouer et en jouant avec lui, vous apprendrez beaucoup de choses sur ce qui le traverse. Parfois, votre enfant aura peut-être besoin de régresser pendant un temps. Il est important de le rassurer, mais également de formuler des attentes et de fixer des limites. Pour les tout-petits, apprendre qu'il ne dirige pas le monde est une grande étape qui provoque de nombreuses crises de colère, explique Nancy Close. Ne les repoussez pas. Aidez-les à trouver, en fonction de leur âge, des moyens adaptés pour exprimer ces émotions plus pénibles. Asseyez-vous près d'eux, aidez-les à s'apaiser et à se calmer et parlez-leur de leurs émotions. Vous pouvez dire, par exemple, « Tu étais très en colère que ta copine ne t'ait pas donné ce jouet et tu l'as poussé. La prochaine fois, tu pourrais lui demander le jouet et aller chercher l'enseignante pour qu'elle t'aide. » Quand les parents doivent-ils s'inquiéter? Certaines régressions peuvent durer quelques semaines, mais c'est variable selon les enfants. En général, si vous parvenez à identifier ce qu'il se passe et à aider votre enfant, il sera en mesure de traverser cette période. Si la régression dure plus longtemps que prévu, environ 2 à 3 semaines, Nancy Close recommande de consulter le ou la prestataire de santé qui s'occupe de votre enfant. Les enfants sont généralement très motivés pour progresser dans leur développement. C'est si cette motivation fait défaut que je m'inquiéterais. Mais la plupart du temps, lorsqu'il s'agit de régression en lien avec le développement, ces périodes sont de courte durée. C'était « Qu'est-ce que la régression chez l'enfant et comment aider votre bambin ?» un texte de la rédaction paru sur le site de l'UNICEF.
Éphéméride, un regard sur l'histoire. C'est arrivé un 27 août. En 1859, premier puits de pétrole moderne. L'Américain Edwin Drake fort avec succès le premier puits de pétrole exploité selon des méthodes modernes à Titusville, en Pennsylvanie. Cette découverte marque le véritable point de départ de l'industrie pétrolière mondiale. Elle entraîne une ruée vers l'or noir qui transformera profondément l'économie et la société américaine. Le pétrole deviendra au fil des décennies suivantes une ressource stratégique majeure à l'échelle planétaire. C'était Éphéméride, un regard sur l'histoire. C'est arrivé un 27 août.
La Chine impose de nouvelles règles pour réduire la dépendance affective à l'intelligence artificielle, un texte de Johanna Sabi, paru le 15 juillet 2026 dans InfoBref. La réglementation vise les services d'IA textuels, audio et vidéo, dotés de traits et de modes de communication proches de ceux des humains. Ces services devront inclure des outils pouvant détecter les émotions de chaque utilisateur afin de lui fournir du contenu réconfortant s'il manifeste une émotion extrême, l'assister ou prévenir ses proches et les services d'urgence s'il indique qu'il va se faire du mal, suicide, automutilation ou autre. À cause de cette réglementation, les géants technologiques chinois ByteDance, Alibaba et Tencent ont suspendu leur fonction de compagnons virtuels. C'était « La Chine impose de nouvelles règles pour réduire la dépendance affective à l'intelligence artificielle », un texte de Johanna Sabi, paru le 15 juillet 2026 dans InfoBref.